Bonjour, bienvenue dans le podcast Cœur à Corps, le podcast sur les identités, l'amour et la sexualité. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie, jeune femme de 33 ans qui est hétérosexuelle et célibataire. Alors non, ce n'est pas une insulte. Alors bonjour Julie, merci beaucoup d'avoir accepté.
Merci surtout d'écouter mon témoignage.
Dis-nous tout, cela fait combien de temps que ta famille te demande quand est-ce que tu penses te marier et avoir des enfants ?
Disons que la question, elle est encore plus sensible que ça, c'est-à-dire que ce ne sont pas des questions qui sont forcément posées de façon aussi directe que ça, mais ce sont plutôt des allusions et puis plutôt des comparaisons par rapport à d'autres membres de ma famille qui, eux, sont en couple, ont des enfants, voire les deux. Et du coup, c'est par rapport à ça et par rapport à leur situation à eux que finalement je sens que derrière il y a une attente, un questionnement et parfois même voilà une espèce de questionnement plus général sur mais qu'est-ce que t'attends, pourquoi pas toi en fait, voilà, c'est plutôt par rapport à ça.
Qu'est-ce que tu réponds face à ces allusions, comment tu te positionnes quand t'es confrontée à ce genre de situation?
En fait, ça dépend parce que parfois, ça me fait de la peine. Alors, parfois, oui, c'est bête, mais parfois, ça me fait de la peine. Alors, j'essaye de trouver des sortes de mécanismes pour contourner ces questions que je trouve très frontales et finalement aussi très impudiques, une petite blague, soit un petit mot d'humour. Et puis parfois, quand je me sens plus aguerrie et aussi plus courageuse, parce que je trouve que ça demande du courage de répondre publiquement comme ça à des questionnements presque intimes, je réponds que pour l'instant, j'ai pas de copain, donc je vois pas comment je pourrais avoir des enfants, et puis qu'il existe aussi plein de femmes qui ont pas d'enfants et qui sont pas empêchées d'être heureuses par rapport à ça, mais je trouve que c'est quand même une espèce d'argumentation qui est difficile à soutenir de façon régulière, sachant que le fait de répondre une fois pour toutes n'empêche pas que la question soit reposée après, et ça c'est un truc un peu fou quoi.
Plus sérieusement, est-ce que tu ressens le poids de l'injonction à la vie en couple dans ta vie? Et si oui, ça va passer par quoi? Comment cette forme de pression se fait ressentir au-delà de ton cercle familial ou de tes proches, hein, comme je posais en première question?
J'ai l'impression que ça se traduit pour moi par une espèce d'image de qu'a, on va dire, passé la trentaine, voilà, faudrait être installé dans un couple monogame avec des enfants et que finalement c'est la voie à suivre pour s'intégrer on va dire à la demande de la société et que si on n'entre pas dans cette espèce de cas de figure-là qui est quand même très majoritaire et largement encouragé, je trouve, eh ben on est une espèce de marginal. Alors, je dis ça avec des guillemets, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de marginalité. Et moi, qui me fait toujours penser à cette espèce d'image de la sorcière, c'est-à-dire que voilà, on serait dans sa petite cabane, loin du village, loin des gens, à avoir des pratiques bizarres, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, et c'est peut-être aussi des fois des questions de rencontres qui se sont pas faites ou des chronologies ou des temporalités qui sont un peu différentes entre les individus, voilà.
On parle des injonctions à être mariée, à avoir des enfants, mais est-ce que c'est un schéma qui toi finalement te fait envie?
Alors la question du mariage, je ne sais pas. L'idée de vivre avec quelqu'un, oui, ça me fait envie. Après, je veux pas que ce soit quelque chose qui soit fait par dépit. Et malheureusement, j'ai parfois l'impression que ça arrive en fait, que les gens sont en couple parce qu'ils veulent être en couple et pas nécessairement parce qu'ils ont une proximité, une entente avec la personne qui partage leur vie. Donc le couple, pour que j'ai une case sur un papier, c'est non, voilà. Après, moi, l'histoire du mariage, moi, mes parents, enfin, dans ma famille, ils sont presque tous divorcés, donc ça relativise aussi la capacité, je trouve, à s'engager puis à y croire. Voilà. Après, ça me fait pas, c'est pas que je crois pas en l'amour, c'est j'ai l'impression quand même que, comme toutes les autres choses, c'est un sentiment qui peut évoluer et qui est aussi porté par des individus qui eux aussi évoluent. Donc du coup, ça crée quand même une espèce de fragilité, mais qui est quand même bien normale. Non, moi je dis pas non ni au couple, ni au mariage, ni aux enfants. Mais c'est juste que je veux pas le faire pour faire plaisir. Je veux pas le faire pour faire plaisir. Je veux pas le faire par dépit. Je veux pas avoir un copain juste pour dire d'en avoir un. et avoir comme seul point commun avec cette personne que de ne pas avoir l'envie d'être seul. Ça me semble pas suffisant pour faire un projet à deux. Voilà. Et puis après, la question des enfants, c'est exactement pareil que ce que je disais précédemment. C'est que quand on est issu d'une famille où il y a eu du divorce, il y a eu des parents séparés, je trouve que la notion même d'enfant, on se rend compte que ce sont des petits individus. Et je trouve qu'ils se retrouvent après dans des problématiques d'adultes avec des statuts d'enfants. Et du coup, on se dit que ce sont des individus à protéger. Et du coup, moi, je trouve que c'est beaucoup de responsabilité. C'est pas pour ça que j'en veux pas, mais je pense que c'est peut-être pour ça que je me pose beaucoup de questions autour de la parentalité.
À quand remonte ta dernière histoire d'amour et pourquoi elle s'est terminée ?
Ma dernière véritable histoire d'amour, elle s'est terminée il y a 2 ans. Elle s'est terminée parce que les sentiments n'étaient pas réciproques et cette déclaration m'a été faite avec aussi peu de tact que ça. Donc voilà, c'était un homme voilà, que je connaissais depuis 3 ans et comme c'est bien normal qu'au bout d'un temps on tombe amoureux, enfin, en tout cas ça a été mon cas à moi. Visiblement, cet amant n'était pas partagé et lui entrevoyait tout ça avec peut-être plus de légèreté. Après, j'ai eu d'autres histoires qui n'ont pas donné suite, soit de mon fait, soit de leur fait à eux. Mais je me considère pas comme aigrie par rapport à l'amour. Après, oui, ça me fait peur parce que je trouve qu'à chaque fois, il faut recommencer. Et je trouve que même si on dit que c'est pas grave et quand on tombe, on se relève, je trouve qu'à chaque fois, on se relève peut-être, mais un peu égratigné. Et je trouve qu'à chaque fois, l'amour, ça fait quand même, c'est quelque chose, enfin, même pas forcément l'amour, mais une relation sentimentale, à chaque fois, on a l'impression de se mettre soi-même entièrement en gage et que du coup, on se juge soi-même à l'aune de l'avenir de cette relation et que quand ça marche pas, on se dit, bah, mon Dieu, ça renvoie pas forcément une image bien, bien positive de soi. Donc, c'est pas forcément évident, voilà. L'amour n'est pas une chose évidente. Bien qu'on en parle partout, c'est pas facile et il n'y a pas de recette pour y accéder.
Est-ce que tu as l'impression que quand tu avais 20 ans, cette relation à l'amour, les relations que tu pouvais avoir avec des hommes se jouaient de la même manière qu'après 30 ans ? Est-ce que tu as l'impression qu'après 30 ans, il se passe quelque chose qui fait qu'à un moment, ça biaise d'une façon ou d'une autre les relations amoureuses ?
Je pense que quand j'avais 20 ans, j'étais peut-être plus légère. En tout cas, j'avais peut-être moins de pression, sans dire de m'amuser, mais en tout cas, j'avais du temps, en fait. J'avais l'impression que j'avais du temps, en tout cas que le temps comptait pas, en tout cas, j'étais pas dans une espèce de frise chronologique établie. Là, j'ai l'impression qu'en fait, à chacune des rencontres ou des relations, on est dans... soit tout de suite, on a une espèce de, j'aime pas dire ça, mais de plan de bataille qu'il faut... qui devrait être commun aux deux, soit on se rend compte que finalement les objectifs sont pas les mêmes, mais faut plus perdre de temps. Et moi je trouve que c'est quelque chose de très anxiogène parce que normalement on devrait pas aller avec à ces rencarts avec une montre, des objectifs. Enfin, moi, j'ai l'impression que tout est rendu très pragmatique. Il faudrait cocher des cases, il faudrait avoir les mêmes cases cochées pour les deux. Et je trouve que ça enlève en fait quand même un peu la magie de la rencontre et puis de la relation. Et faudrait tout de suite se dire si on veut se marier, avoir des enfants, alors que quand j'avais 20 ans, la question, elle se posait pas et on me la posait pas, je me la posais pas. C'était plus léger, c'était plus frais et c'était moins pesant, en fait. Voilà. Et là, on a l'impression que finalement, il y a une espèce de date butoir au-delà de laquelle on ne doit pas aller, qu'il faut aller à l'essentiel, pas perdre de temps. Enfin, moi qui aime bien un peu flâner, du coup, je suis assez malheureuse avec ce genre de principe-là.
Comme beaucoup de personnes célibataires, j'imagine que tu as déjà dû expérimenter les applis et les sites de rencontres. Est-ce que tu as déjà fait des rencontres par ce biais ? Et est-ce que c'était des rencontres de qualité ? Quel regard tu portes sur, finalement, ce moyen de faire des rencontres ?
Il y a très longtemps, je m'étais inscrite sur un site de rencontres et j'avais fait 2 rencontres qui n'avaient pas donné lieu à des rencontres charnelles, mais c'était deux garçons qui étaient vraiment gentils, de qualité. Il y avait eu des sorties culturelles et c'était vraiment très intéressant. Vraiment, j'en avais gardé un très bon souvenir. C'était bien, c'était délicat et je m'étais sentie forcée en rien. Voilà. Dernièrement, je me suis inscrite sur un site de rencontres et je sais pas si c'est le fait d'avoir passé l'espèce de cap fatidique de la trentaine, mais là, ça a été un peu plus agressive, c'est-à-dire que comme un certain nombre de filles, j'ai reçu ma première dick pic, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la photographie en gros plan d'un pénis en érection, sachant que je précise que j'avais absolument pas demandé des photographies de ce type et aucune photographie de façon plus générale, et du coup ça m'a un peu coupé l'envie parce que je me suis dit que c'est pas du tout moi ce que je cherchais, enfin évidemment la sexualité ça fait partie de la rencontre, mais pas au bout de 3 messages. Donc, et puis peut-être pas comme ça non plus, moi ce côté zoom, enfin je sais pas en fait ce qui peut se passer, et c'est là qu'on voit peut-être qu'il y a une différence entre les individus, mais je sais pas comment on peut passer de je t'envoie un message à je t'envoie une photo de mon pénis, donc ça je comprends pas, et puis j'apprécie pas du tout en plus. Donc voilà, après les sites de rencontres, moi je trouve que c'est très bien, et j'ai plein d'amis qui sont des hommes ou des femmes qui ont rencontré des partenaires occasionnels, plus durables sur ce genre d'application. Je trouve que c'est très bien parce que ça permet de sortir de sa, on va dire, d'une zone qu'on connaît bien, c'est-à-dire le copain du copain du copain, le lieu de travail. Je trouve que ça permet en fait d'agrandir un peu la possibilité, enfin le champ des possibles en fait, voilà, on agrandit le champ des possibles. Après moi je crois que ça me fait un peu peur, parce que déjà j'ai peur de pas plaire en fait aux hommes que je pourrais rencontrer, enfin voilà. Après j'ai aussi l'impression de moi me concernant, hein, je juge pas du tout les autres personnes, mais moi, j'ai l'impression de me mettre en vente comme si c'était sur eBay ou Le Bon Coin. C'est-à-dire, il faudrait aimer les films de Tarantino, un peu ceux des frères Coen et un album culte de Nirvana. Oui, c'est ça, mais en même temps, Julie, c'est plein d'autres choses, et c'est plein d'autres choses aussi qui sont pas forcément... qu'on peut pas forcément traduire en remplissant des cases. Voilà. Donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça... Que je m'inscris mais j'y vais pas, c'est assez paradoxal d'ailleurs, mais moi je trouve que c'est très bien que ça existe, faudrait peut-être que je sois un peu plus on va dire un peu plus persévérante par rapport à ça, puis certainement aussi que je me fasse plus confiance, mais ça c'est une autre question. Voilà.
Qu'est-ce qui te plaît dans ton célibat? Est-ce qu'il y a des choses qui sont positives? Si oui, est-ce que tu peux nous en parler?
Alors il y a des choses très positives dans mon célibat, c'est la liberté, voilà, ça c'est pas un vain mot, la liberté, donc moi j'aime bien les musées, le cinéma, j'aime bien me balader, j'adore lire, donc du coup c'est vrai que je ne suis pas obligée de composer avec l'agenda de quelqu'un d'autre pour pouvoir pratiquer mes loisirs, donc ça c'est très bien, c'est très bête, mais je fais ce que je veux au moment où je le veux, voilà, et je suis toujours consentante, j'ai pas d'obligation de compromis sur la question du temps. Donc ça c'est voilà, ça me laisse voilà, si j'ai envie de lire Romain Gary jusqu'à 4h du matin, je peux le faire, personne ne me dira bon maintenant on éteint, mais en même temps je comprendrais qu'on puisse me le dire si j'étais en couple, mais la question elle ne se pose pas. Donc c'est vrai que c'est magique d'être libre dans ce qu'on fait, surtout quand on a plein d'activités, puis quand on veut faire plein de choses, donc ça c'est vraiment très intéressant, c'est bien d'être libre. Et puis on compte sur soi, c'est-à-dire que ce que je peux dire aussi, c'est que je sais être seule, mais du coup, je sais aussi être accompagnée avec mes amis, avec ma famille. Et la solitude ne me fait pas peur. Je trouve qu'à une époque où finalement, il faudrait jamais être seule, il faudrait toujours être accompagnée, avoir toujours un groupe, moi, la solitude, elle me fait pas peur. Donc je l'accepte, et en même temps, ça me rend profondément consciente et on va dire en phase avec la compagnie quand je l'ai. Donc je suis contente quand je suis seule et je suis contente quand je suis accompagnée. Et je me force pas ni dans un sens ni dans l'autre. Et ça me plaît bien.
Est-ce que tu as le sentiment aussi que peut-être le célibat, ça peut être un moyen de mieux se connaître soi-même?
Ah oui, moi je pense qu'il faut passer, alors pas forcément sur de très longues durées, mais il faut passer par une étape de célibat où on fait l'apprentissage de la solitude et... parce que je crois que oui, ça nous renvoie à nous-mêmes, ça nous renvoie à ce qu'on n'aime pas dans la solitude, à peut-être aussi les vieux démons, un peu les petits problèmes qu'on oublie. Et quand on est seul, finalement, je pense qu'il remonte et qu'il nous impose aussi de les traiter. Et la solitude et le célibat, par rapport à ça, c'est... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas faire l'économie de ce qu'on a en face de soi. Et surtout qu'en plus, ce qu'on a en face de soi, c'est souvent le fruit d'une expérience, d'un passé. Et du coup, moi, je pense que c'est très, très constructeur, formateur. Voilà, on compte que sur soi, mais du coup, après, on sait qui on est. Enfin, on le sait plus, on le sait mieux. Et du coup, ça donne des armes supplémentaires pour aller rencontrer les autres, qu'ils soient des amis, des collègues, la famille, des petits copains, peu importe. Mais je pense que voilà, c'est une espèce de bagage qu'on a et une lisibilité qu'on a sur le passé, sur soi aussi. Et puis, je pense qu'on se ment moins aussi. On est plus honnête par rapport à soi. C'est-à-dire que quand on est seul, et ben si on n'aime pas, si on est un peu bordélique, et ben, au bout d'un temps, on va faire le constat que oui, on est bordélique. Mais c'est pas grave, on le sait. Voilà, on fait avec.
Et alors, sur les moments plus difficiles, est-ce que parfois aussi, c'est dur d'être célibataire pour toi ?
Oui, des fois, c'est dur d'être célibataire, de se sentir seule, parce que finalement, ce qui manque aussi, c'est le regard de quelqu'un qui pourrait être un regard amoureux, attentionné sur moi. Voilà, parce que j'ai connu ça, donc c'est quelque chose qui, des fois, manque, évidemment. Après aussi, et ça, je dirais que c'est sur un autre plan, mais c'est aussi se dire, est-ce que finalement, si je suis célibataire, est-ce que c'est parce que je suis pas aimable, est-ce que c'est parce qu'il me manque quelque chose, ou que j'ai quelque chose qui n'est pas nécessaire et qui est pourtant là. Voilà, c'est aussi des questionnements qui surgissent en fait avec ce constat-là. C'est de se dire, bah oui, moi j'aimerais bien qu'on m'aime, voilà, comme dans une relation sentimentale, bien sûr, voilà. Et j'ai aussi, voilà, il n'y a pas que dans un sens, et j'ai aussi de l'amour à donner, de l'amour, voilà, à un compagnon, à un copain, un chéri, enfin, appelons-le comme on veut. Et puis il y a aussi se dire, mais alors. Si ça n'est pas le cas, si je ne suis pas aimée, pourquoi ne suis-je pas aimée? Voilà, c'est ça aussi. Et ça, c'est un espèce de deuxième effet qui vient après le premier, et qui peut aussi, moi, qui m'interroge, en fait.
Et comment on dépasse justement cette difficulté?
Des fois, en fait, je pense qu'il faut... Enfin, moi, j'essaye de la chasser, parce que je me dis que c'est peut-être aussi une question de temps. Voilà, c'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore rencontré... je suis peut-être pas rentrée dans un... On va dire, dans un groupe social où il y avait quelqu'un qui pouvait me plaire et à qui je pouvais plaire. C'est possible, c'est aussi le fruit un peu du hasard. Et puis, bon, j'essaye aussi de ne pas y penser, enfin de ne pas passer mon temps à penser à ça, parce que sinon après les remises en question sont, je trouve, trop importantes et trop délétères, et après on va trop profond, et ça n'est pas une bonne chose. Mais après, je pense que c'est normal aussi de se dire, bah tiens, mais pourquoi moi et pas les autres? Et par rapport à ça, je rejoins ce que je disais précédemment sur cette espèce de question de la marginalité. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une période, je trouve, où certes, faut être libre, certes, faut dépasser la vie des anciens, mais en même temps, et je ne sais pas si c'est dû à la crise économique ou pas, mais le couple, la famille apparaissent quand même comme des valeurs refuges. Et il est de bon ton de ne pas trop transgresser ce type de modèle-là. Donc on se dit, mais pourquoi pas moi? Je ne sais pas. Il faut accepter de dire, je ne sais pas. Voilà, c'est pas très, très... C'est pas rassurant, mais malgré tout, parfois ça arrive. On ne sait pas, on n'a pas de réponse.
Alors, j'imagine qu'en plus, tu as forcément beaucoup de personnes de ton entourage qui doivent te dire que tu es jolie, intelligente, intéressante, drôle, et que justement, on te renvoie à toutes ces belles qualités qui justifieraient justement l'incohérence de ce célibat. Comment tu as réagi finalement face à ce type de remarques ?
Là aussi, je réponds que je ne sais pas. Voilà, que je ne sais pas. Et puis aussi, toutes ces qualités, c'est gentil à ceux qui m'en font part. Mais tout ça, c'est quand même assez subjectif. Hein, donc, Non, on a toujours l'image, et c'est pour être un peu drôle, mais d'un petit homme un peu bossu, un peu chauve, qui voilà, qui aurait pas de problème à trouver des compagnes ou même des compagnons, parce que finalement y aurait autre chose dans sa personnalité. Je pense que c'est vrai. Après, oui, c'est difficile, mais je trouve que c'est aussi, c'est ce que je disais précédemment, c'est que le fait de dire je ne comprends pas, c'est aussi quelque chose de, c'est un peu intime, quoi, et je trouve que c'est même parfois même impudique, c'est de dire comme s'il y avait une espèce de recette, en fait, une recette de l'amour, soit jolie, un peu drôle, un peu intelligente, et forcément tu auras le gâteau parfait, le plat parfait. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Et des fois, oui, c'est aussi des choses qui peuvent apporter une petite piqûre un peu douloureuse, quoi. Ça peut apporter un peu de souffrance, parce que on se dit qu'on a tous en tête des gens qu'on connaît et qui n'ont pas ces qualités-là. et en fait, qui n'ont pas de problème à trouver des partenaires. Mais ça interroge, mais en même temps, ça interroge aussi sur la différence et sur le temps et sur l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes. Voilà, c'est ça aussi.
Oui, comme si c'était forcément rationnel. Forcément, l'amour était rationnel, qu'avec certaines qualités, c'était obligatoire d'être forcément heureux en couple. Il y a de ça, en fait.
Ah oui, moi, je pense que c'est la chose la moins rationnelle du monde. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça termine, on ne sait pas combien de temps ça dure, et on ne sait pas si c'est réciproque. Donc, si on plaque sur l'amour des recettes mathématiques, je pense qu'on est vraiment dans l'erreur. Enfin, c'est pas ça. Et puis, les gens évoluent de façon pas forcément similaire d'ailleurs. Donc, tout ça me semble très compliqué. C'est pour ça qu'il est si compliqué de parler de l'amour, parce qu'en plus on sait pas trop ce que c'est, enfin, chacun a sa propre définition, et elle peut varier aussi en fonction des vies, enfin. Donc il n'y a pas de recette magique, et il n'y a pas d'ingrédient magique non plus, voilà, c'est ça qu'il faut vraiment préciser.
Alors ce serait quoi ta définition de l'amour ?
Ma définition de l'amour, c'est une espèce d'engagement un peu spirituel, Oui, c'est un engagement spirituel entre deux personnes qui, pendant un temps qu'on ne peut pas définir, voilà, ont autant d'attraction l'un pour l'autre, avec, je pense, quand même la question de la réciprocité qui me semble importante. Alors, ça passe pas nécessairement par le logement commun, ça passe pas non plus par des actes administratifs tels que le mariage, enfin, je pense pas du tout. C'est, oui, une espèce d'engagement réciproque. On le sait, quoi. Enfin, c'est je trouve que je suis pas du tout claire, mais voilà, on sait qu'on est amoureux. Voilà, alors il y a toujours ces petits papillons, mais qui, je trouve aussi, sont un peu une espèce de mythe, quoi. Je trouve que voilà, ce côté papillon, l'amour ne rime pas forcément toujours avec une espèce d'insécurité où on risquerait de perdre l'autre sans arrêt. Moi, je crois que, enfin, avec mon vieil âge et mes 33 ans, je trouve que l'amour, quand il se manifeste, c'est quelque chose qui renvoie plutôt à une espèce de force et pas à la faiblesse ou à la peur panique de perdre l'autre, quoi. C'est quelque chose qui vient en plus, et qui vient pas altérer un état un peu fragile, un peu fébrile. Voilà, voilà ce que c'est l'amour, enfin ce que c'est pour moi. Donc, voilà.
Alors j'ai trouvé quelques chiffres, 40% des foyers français sont célibataires et 2 célibataires sur 3 sont des femmes, selon une étude que j'ai pu donc trouver qui date de 2012. Quel regard tu portes sur ce chiffre ? Qu'est-ce que ça te donne à penser ?
Je pense que, on va dire, la vision telle que nos parents pouvaient l'avoir d'un couple, a beaucoup évolué. Je pense qu'aussi on se force moins, on se sent peut-être moins obligé d'être en couple pour répondre à une espèce de norme, ce qui explique aussi, à mon sens, aussi beaucoup les divorces, les séparations, les remariages. Voilà, je pense que peut-être que l'individu passe avant l'espèce de statut social du couple, et c'est ce qui fait que les gens sont certainement plus souvent célibataires, ou qui passent chacun par des phases où ils le sont. Donc je pense que ça, c'est, il y a une espèce d'évolution un peu sociale par rapport à l'image du couple, qui n'est plus l'espèce d'Éden parfait, voilà, on se marie à 20 ans et à 70 on est toujours ensemble, bien que ça existe encore, mais si ça existe, si les mariages de 50 ans existent encore, je pense que maintenant ils sont faits avec plusieurs mariages. Donc il y a peut-être plus de, peut-être que les individus sont peut-être un peu moins sujet à tout accepter pour être en couple. Il y a peut-être aussi voilà, la volonté d'être célibataire en se disant que voilà, on a cette fameuse liberté dont je parlais avant. Après, il y a aussi, à mon avis, beaucoup de célibat subi. Faut quand même pas se, faut pas se voiler la face par rapport à ça. Voilà, après il y a beaucoup de... Oui, je pense que c'est... Il y a une espèce de remise en question en fait des valeurs du couple, du célibat. Avant c'était une espèce de... Le couple était voilà, l'idéal à poursuivre et le célibat une espèce de modèle que... Alors évidemment les femmes ne devaient absolument pas avoir sous peine d'avoir la réputation d'être soit une femme coincée, soit une femme à homme, ce qui est encore pire. Et puis les hommes, eux, avaient quand même dans de quelques cas... la possibilité de l'être. Maintenant, j'ai l'impression que tout a un peu brouillé. Mais malgré tout, et au-delà de tout ça, je pense que malheureusement, le modèle du couple reste quand même quelque chose de très très important dans la société où si on n'est pas deux, on n'est rien du tout. Enfin, voilà, je veux dire, malheureusement, la presse féminine n'a de cesse que de répéter ce genre de message. Et je trouve que c'est assez délétère parce que on se rend compte que, enfin, ça donne l'impression, voilà, tant qu'on n'est pas deux, on n'est pas complet, on ne s'est pas trouvé. Alors qu'à mon avis, il faut plutôt envisager les choses de l'autre sens, c'est-à-dire déjà on se trouve et après on trouve quelqu'un en espérant que lui-même se soit aussi trouvé de son côté, histoire de limiter les possibilités d'erreur.
Alors pourquoi avoir accepté de témoigner, de participer à ce podcast ?
Ben moi, j'avais écouté tous les podcasts de la première saison de Cœur à Corps, ça m'avait beaucoup plu parce que j'avais constaté une diversité de témoignages qui apportaient un œil neuf, un regard nouveau sur justement toutes ces questions qu'on se pose, la relation à l'autre, la sexualité, l'image, les attentes de la société. Ça m'avait vraiment intéressée. En plus, j'avais trouvé, à la différence de certains autres, que il y avait un vrai temps d'écoute accordé aux personnes qui témoignaient. Voilà, on avait la sensation qu'elles s'étaient installées dans la confidence et ça me plaisait bien parce que justement voilà, on était un peu avec elles et il y avait du temps en fait. Ça n'allait pas vite, on ne gardait pas que les meilleurs moments, les plus vifs, les plus vendables. Non, c'était vraiment toute l'histoire qui était intégrée au support. Donc ça m'avait beaucoup plu. Et puis je me suis dit, en écoutant la première saison, moi, si on m'interrogeait, qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? Donc du coup, je me suis aussi dit, qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça ? Et puis j'ai eu la chance d'être contactée pour figurer à la deuxième saison. Et c'est vrai que je trouve que c'est intéressant de pouvoir en parler. Et puis c'est aussi intéressant de pouvoir se dire que les questions qu'on porte, on n'est pas les seuls à se les poser, qu'il y a plusieurs modèles, il y a plusieurs groupes, il y a plusieurs sous-groupes, et qu'en fait, on n'est pas emprisonné dans l'un et dans l'autre, et que c'est bien de pouvoir se poser des questions, de chercher du sens, en fait. Voilà, c'est bien de chercher du sens, et je trouve que ce podcast a le mérite de nous permettre de ressortir plus intelligent, plus éclairé et aussi plus tolérant en fait. Moi j'ai trouvé, ce qui m'a beaucoup plu dans ce podcast là, c'est la tolérance, il n'y a pas de jugement, ça reste très délicat, voilà, y compris sur des questions de sexualité qui parfois sont je trouve pas traitées avec la finesse dont qu'elles nécessiteraient. Et donc là, tout m'a plu, le fond, la forme, et puis on a du temps pour parler, ça c'est important.
Merci beaucoup Julie pour ces compliments. Merci pour ton témoignage.
Merci Déborah d'avoir pris du temps pour écouter mon témoignage, merci.
Merci aussi aux auditeurs de nous écouter et de repartir avec moi pour cette deuxième saison. C'est la fin de ce podcast, merci à vous et à bientôt, au revoir.